L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et radioalpa.com, lundi dans le studio, on recevait Antoine 4000 pour nous parler de son EP sorti le 8 décembre. Et aujourd'hui, j'accueille de nouveau un groupe d'un style bien différent, puisqu'ils adoptent tant sur le plan sonore que visuel une esthétique jazz américain avec chemise blanche et bretelles. Mais ils en parleront bien mieux que moi, puisqu'ils nous présenteront leur groupe, leur style et leur projet. Bonjour Thomas Pless et Eric Deboca du groupe Marshmallow.
Bonjour.
Bonjour.
On écoutera bien sûr quelques-uns de leurs titres au cours de l'émission, puis ce sera l'heure des chroniques étudiantes avec Merlin et Maëlle. Salut à vous deux.
Salut.
Qui sont là dès le début, bravo à eux. L'amphi, c'est parti tout de suite avec nos invités du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Thomas Pless et Eric Deboca, vous faites partie du groupe Marshmallow, composé d'Astrid Veigne au chant, d'Eric à la guitare, Christian Dasfeld au piano et Thomas à la contrebasse. Et vous vous définissez sur votre site internet comme un groupe jazz crooner blues. Alors, pour éclaircir ce style aux non-initiés, dont je fais partie, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans un premier temps ce que c'est que le jazz, le crooner, le blues? Comment est-ce qu'on distingue tout ça?
On voulait pas trop se contenter de l'étiquette jazz uniquement, parce que le jazz c'est très vaste, mais c'est aussi aujourd'hui associé à une musique peut-être un peu plus moderne et instrumentale, enfin quoique, et voilà. Et la musique de Marshmallow, elle est quand même focalisée beaucoup sur le chant d'Astrid, donc on est sur un format de chanson, comme ça se faisait à une époque qui est révolue, mais... dans les années 40 et 50. Donc ça, c'est le jazz crooner un petit peu qui était joué à cette époque-là. Et puis, on a...
Puis fallait que ça tienne dans des cases.
Fallait que ça tienne dans des cases.
Voilà, non, mais Thomas l'a bien résumé, en fait. C'est ça, c'est d'abord une approche chanson de la musique. Et effectivement, on va dire qu'à l'époque, c'était du jazz, c'était du swing. Donc elle est empreinte de cette musique-là, mais dans ce qu'on fait, pas que non plus. Voilà, il y a des choses qui sont un peu plus presque pop, hein. Un peu pop rock presque.
Peu pop rock. Dans Marshmallow, il y a un peu pop rock.
Ouais, enfin blues, c'est l'époque presque sixties un peu quand même.
Ouais, vous mélangez un peu les époques. Vous mélangez.
Oui, il y a
vous,
pas.
Vous restez dans une branche assez large quand même. Ça peut aller des années.
En fait, l'approche 40-50, c'était surtout sur le premier album.
D'accord.
Où on voulait trouver notre style déjà, notre identité, et puis une direction vraiment, enfin une direction artistique précise, qui nous a permis ensuite. Là, sur le premier album, c'était des standards qu'on a repris, principalement axés sur Nat King Cole et Bill Holiday. Et là, aujourd'hui, ça nous a permis, en fait, de trouver notre identité et de composer. Et donc, le prochain album, en fait, sera...
On en parlera plus en détail dans la suite de notre entretien. Alors, pour commencer, on va écouter tout de suite un morceau pour voir à quoi ça ressemble, Marshmallow. On écoute « Little Girl ».
Little girl, you're as sweet as can be. Just a glimpse at your mouth, love from the start, and horror thrill came into my heart. Little girl, with your cute little ways, I'm yours for the rest of my days. And this great big world will be divine, little girl, when you're mine, all mine. Mm-hmm. just a glance at your mitt. Love from the start and whole thrill came into my heart. Little girl with your cute little ways, I'm yours for the rest of my days. And this great big world will be divine, little girl, when you're mine, oh, oh mine.
Vous êtes toujours dans l'amphi, je suis toujours avec Thomas Plessé et Eric Doboca du groupe Marshmallow, dont on vient d'écouter le titre Little Girl. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que vous vous êtes réunis tous les quatre autour de ce projet Marshmallow ?
Alors, on a démarré en fait à trois avec Astrid et Christian.
D'accord.
On jouait déjà ensemble, mais en fait,
C'était déjà Marshmallow du coup ?
Oui, ça a démarré.
D'accord.
C'était Marshmallow. Mm. On a commencé à trois et Thomas est arrivé. Je sais pas.
Pour l'album.
Ouais, pour l'enregistrement de l'album.
2019.
Exactement, ouais. En studio. Il y a eu très peu de temps de répétition en fait avant d'enregistrer. Ouais.
Et alors, est-ce que vous venez tous du jazz, des mêmes horizons musicaux un peu ?
Pas du tout.
Alors non.
Alors vous venez d'où par exemple ?
Mais quelques-uns oui, mais alors moi par exemple non, assez peu finalement. Moi je suis plus un musicien de variété quoi, au sens large, c'est-à-dire que j'ai accompagné beaucoup, j'ai joué dans pas mal de styles musicaux, même si au départ je suis plutôt rock. Mais
Et vous, Eric Doboca ?
Moi en fait j'ai eu une période où j'ai fait beaucoup de jazz, où je ne faisais que ça. Mais j'ai commencé par la pop, avec la guitare, en écoutant les Beatles et les Stones. Mais après, vraiment, je me suis dirigé vers la musique brésilienne, le jazz. Et ensuite, j'ai intégré le groupe Tulu. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment mis le jazz de côté. Mmh. Et c'est avec Astrid, en fait, que j'ai eu ce...
D'accord.
Voilà, c'est un
ce
peu
retour de flamme.
Ce retour, ouais. Non, mais c'est vrai.
Et cette chanson qu'on vient d'écouter, donc Little Girl, c'est une reprise, c'est ça ?
Oui.
Alors, c'est une reprise de qui, d'ailleurs ?
C'est Nat King Cole. Hein. Sur le premier album, on s'est surtout basé sur le trio de Nat King Cole, le son qu'il avait. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment travaillé. Et pour définir notre son aussi à nous. Et en fait, c'est parce que c'est un trio contrebasse, piano, guitare.
D'accord. Sans batterie.
Et Nat King Cole est au piano et au chant. Ouais, sans batterie.
Et alors, à part Nat King Cole, du coup, quels autres artistes reprenez-vous ? Fréquemment, en tout cas.
Alors, des standards qui avaient été pris par Billie Holiday, et puis Nina Simone aussi.
Ouais, Sarah Vaughan.
Ah ouais.
Un petit peu.
Et la Fitzgerald, pour Summertime. Bon, enfin, ouais, mais ça, de toute façon, c'est des chanteuses, chanteurs qui ont repris toujours à peu près les mêmes standards.
Mais, oui, parce que dans le jazz, en fait, c'est un peu toujours les mêmes chansons qui circulent, qui sont toujours reprises. Il y a beaucoup de reprises, en fait, dans le jazz.
Oui, à cette époque-là, ouais, pas mal. Après, Nat King Cole lui composait, je crois que Billie Holiday aussi, mais je suis pas certain. Après, si on remarque que Nat King Cole, Billie Holiday, Nina Simone, c'est vraiment au bord du jazz en fait. On sent bien ça amène ailleurs en fait. Voilà. Et je pense que la musique d'aujourd'hui, elle vient de tous ces artistes.
Et alors, comment est-ce que vous faites vos reprises ? Vous autorisez des variantes ? Comment vous apposez la pâte Marshmallow dans vos reprises ? Question complexe ?
Non, c'est pas complexe, non. En fait, la difficulté, c'est que les standards, ils ont tellement été repris, et ils sont encore tellement repris. Mmh. Déjà, on ne sait même plus qui sont les créateurs originaux.
Oui, c'est
originaux.
Ça, c'est difficile de savoir qui l'a chanté en premier, en fait. Quoi.
Ouais, et donc il y a plein de versions sûrement différentes, mais souvent, on s'est conformé à jouer un standard d'une telle manière. Mmh. Et alors moi, effectivement, je suis arrivé... Après que les arrangements sur les chansons du premier album aient été produits. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est quand même qu'il y a une approche qui est de déconstruire un peu ce qui a été fait et puis d'aller chercher ce qui nous touche, nous, en fait. Voilà.
Donc l'exemple type, c'est Summertime, qui est une chanson voilà, qui est très connue et où on entend des arrangements qui sont vraiment révélés au grand public. Et la version de Marshmallow, elle est quand même assez singulière dans l'approche, quoi, dans l'esthétique, le mouvement qui n'est pas le même.
Et l'attention.
Voilà.
L'attention.
Et alors, pourquoi cette volonté de réincarner ce style musical ? Vous avez vraiment ce fantasme du voyage dans le temps. D'ailleurs, le premier album, il s'appelle Journey in Time. Ça vient d'où, ça, en fait ? Parce que même au niveau scénique, ça s'incarne avec les costumes, entre guillemets, enfin, le style vestimentaire qui essaie de reproduire celui de l'époque. Pourquoi il y a cette volonté de réincarner tout ça ?
Alors, selon moi, il n'y a pas que les vêtements, l'apparence sur scène, etc. Il y a aussi d'abord le son vraiment qu'on a enregistré. Alors déjà, on joue en live, on enregistre en live comme ils faisaient à l'époque, en retouchant quasiment rien. Alors des fois, ça peut arriver, mais notamment la trompette qui a été rajoutée.
Et donc ça, c'est une méthode d'enregistrement qui ressemble à ce qu'ils faisaient à l'époque, du coup ?
Oui, c'est-à-dire un micro stéréo, et puis juste quelques micros pour... Nous, on a rajouté quand même quelques micros pour pouvoir rehausser s'il y avait besoin, mais globalement, c'est un micro stéréo et un micro pour la voix.
D'accord.
Voilà. Et après, on se dispose dans la salle, et c'est la disposition des musiciens dans la salle qui fait le mix.
Ok.
Voilà.
Et alors, quel retour est-ce que vous avez du public sur scène ? Comment est-ce qu'ils vivent justement ce voyage dans le temps ?
Bon, sans se jeter des fleurs, hein, on a globalement de bons retours de Marshmallow. Enfin, nous, on vit des moments assez généreux de part et d'autre sur scène. Ça marche bien pour nous quand voilà, on se produit. Malheureusement, on ne se produit pas encore assez, mais ça va venir. Je pense que ça, en fait, ça rappelle aux gens forcément un état d'esprit qui est peut-être un peu révolu, parce qu'aujourd'hui, c'est la course dans tout. Ça rappelle une époque où il y avait déjà ces prémices-là, mais on prenait quand même un peu plus le temps. C'était complètement différent. Et cette manière d'aborder la musique, elle touche les gens, je pense. Ouais.
Oui, et puis très souvent, ce qu'on entend, c'est « vous nous avez transportés ».
Transporté ?
Ouais, très souvent, on entend ça.
C'est le voyage dans le temps, quoi.
Je pense que c'est, voilà. Après, nous, on est sur scène, on a construit notre projet comme ça, on n'a pas ce recul, mais on imagine bien ce que ça peut évoquer. Après, voilà, c'est pareil pour les vêtements, pour les costumes. Si on peut parler de costumes, moi je parle pas de costumes, moi je parle de mes fringues, en fait, parce que. Moi, j'aime bien m'habiller comme ça.
D'accord.
Mais je trouve que ça participe aussi de se mettre dans un personnage, mais en même temps un personnage sincère. Quoi.
Mm.
Voilà, on retrouve une sincérité non seulement dans la musique, mais aussi dans ce qu'on est et dans dans ce qu'on fait apparaître.
Et donc, dans votre premier album, Journey in Time, essentiellement composé de reprises, quel titre on peut trouver ? Est-ce que c'est tous les titres de reprises que vous jouez ? Dans le premier album, Journey in Time, on trouve toutes les reprises que vous faites ou vous en faites d'autres inédites en live ?
Ouais. Il y en a quelques-unes en plus, ouais.
Et alors, quel titre on peut trouver dans l'album, par exemple ?
Dans le premier ?
Ouais.
Let's Fall in Love.
I'm a Fool to Want You.
I'm a Fool to Want You. Summertime.
Ouais. Nature Boy, qui est très. Ouais. Je le trouve très beau.
Ah ouais, ouais. Mm. Ça doit être un des derniers morceaux de l'album.
Donc c'est que des classiques, tout ça, en fait ?
Oui.
Ceux-là, oui. Oui, on a sûrement des moins...
Classiques, pas si classiques. Par exemple, si on prend le morceau de Nat King Cole...
September in the Jive, c'est pas ça ?
Et That Jive.
Ah oui, That Jive, ouais.
C'est pas un classique.
D'accord. Donc vous faites aussi des titres un peu plus de niche, quoi.
Ouais. Moi, je suis pas assez spécialiste, honnêtement, du genre pour répondre à ces questions-là. Mais
non, mais il y a des classiques. Il y a Route 66 aussi, c'est un classique.
Ouais.
Bon, la reprise, c'est bien, mais pour un groupe, la compo, c'est quand même mieux. On en parle juste après une petite pause pendant laquelle on écoute un extrait de votre prochain album à venir. N'oubliez pas, auditeurs et auditrices, que pendant l'écoute, vous pouvez gagner des places pour La Grande Sophie et Julia Jean-Baptiste le 15 décembre à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Marshmallow Full Strain. «
clickety-clack, clickety-clack. The time passed so quickly. You caught the first train and you don't know where it's going. Clickety, clickety. It goes faster and faster. You don't know who you are, but you are trapped everywhere. It's too late now to call for help. You know that it's no time to regret. You are here now.
Too late, it's too late. It's really too late. And go wherever you can.
Avec le groupe Marshmallow, dont on vient d'écouter un extrait de leur prochain album en projet, prévu pour le printemps 2024, c'est ça? Je ne me trompe pas sur la date?
Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. 19 avril.
Donc c'était Full Strain. Alors vous me disiez en off, il y a des invités sur cette compo, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ouais. Alors on a fait jouer une petite section sax-trompette. À la trompette, c'est Jean-Pierre Derouard qui a aussi joué la caisse claire sur ce morceau-là.
Okay.
Et au saxophone, c'est Cédric Timon.
Okay. Ouais,
c'est deux musiciens talentueux de la région.
Et vous jouez souvent avec des invités, du coup ? Faites souvent des collaborations avec d'autres musiciens ?
Eh ben, pour le deuxième album, là, c'est le cas, ouais, ouais.
Il y a également Alex Berton.
Ouais, d'accord. Batteur. Ok. Alors, Full Strain qu'on vient d'écouter, du coup, cette fois, c'est une composition de Marshmallow.
C'est ça.
D'accord. Et alors pourquoi jusqu'avant vous faisiez que des reprises ?
Eh bien, en fait, c'est ce que j'expliquais au début par rapport au premier album. C'était une manière de trouver notre son, notre identité. C'est en gros un apprentissage. Mm. Essayer d'être dans l'écriture musicale de cette époque-là. Mm. Et puis voilà. Et puis vraiment de s'imprégner de tout ça pour pouvoir ensuite composer.
D'accord. Et alors, vous vouliez pas vous aventurer tout de suite à la composition, mais finalement, vous y allez. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça a de plus, la compo, par rapport à la reprise ?
Bah, ça nous appartient, directement. Je dirais que c'est un petit peu angoissant aussi de partir sur des compositions, surtout dans un style comme ça.
Pourquoi angoissant ?
Parce que c'est une manière un peu de rivaliser... avec des morceaux qui sont des monuments. Et voilà, et puis c'est vrai qu'on n'était pas sûr du tout de y arriver, en fait.
Et alors, comment vous y prenez donc, pour créer ces compositions ? Comment ça marche entre vous
On a fait une session de pré-production, on va dire, au studio de La Boîte à Meux.
Okay.
Et pendant lequel on a... Principalement, moi et Christian Dasfeld, on a amené des compositions, des idées, voilà. Et puis après, on les a rangées ensemble. Pour certaines, il y avait... Voilà, puis, et Astrid a posé son chant et un texte.
C'est Astrid qui écrit les textes, du coup ?
Oui.
D'accord. Vous débordez jamais, comment dire, sur le plan de travail de l'autre, c'est-à-dire qu'Astrid est au chant et au texte, Thomas à la contrebasse, vous débordez jamais
si.
À l'instrument ? Si ?
Si, si, ça peut.
Et alors, ça parle de quoi, donc, les compos de Marshmallow ?
Ah, ouais.
C'est dommage qu'Astrid soit pas là.
Ouais. Ouais, et puis c'est toujours difficile de faire l'exégèse d'un texte, parce que il y a souvent plusieurs lectures. Et effectivement, je pense qu'Astrid, elle serait vraiment plus à même de parler des textes qu'elle a écrits. Maintenant...
Quels thèmes, en tout cas, qui sont abordés
Plusieurs thèmes sont abordés. Il y a... En fait, là... On peut parler du lien qu'ils ont entre eux, ces morceaux-là, et de l'histoire qu'on a essayé d'en sortir pour l'adapter sur scène. Et donc, on aime bien s'imaginer que c'est une sorte d'introspection d'un voyage pas toujours très heureux à l'intérieur de soi, mais pour en sortir vraiment une idée de l'essentiel. Donc c'est ce fil-là là, qui...
Donc il y a une volonté de créer une cohérence globale sur l'album, de créer une sorte de fil narratif, entre guillemets.
Finalement, ça s'est fait un peu malgré nous, parce qu'on n'y a pas pensé dès le départ.
D'accord.
Mais en fait, en mettant les morceaux les uns après les autres, et aussi en commençant à faire un travail scénique, on s'est aperçu que c'était très cohérent et qu'il en sortait une histoire, quoi, qu'on pouvait... Sans en faire la narration vraiment explicite, mais en tout cas, on peut nous se l'approprier pour incarner soit des personnages ou une manière d'être ou une façon de jouer. Et ça nous aide bien, en fait. Ouais.
Alors, pour la chanson Full Strain, vous avez notamment pu tourner un clip disponible sur YouTube. Pourquoi c'était important pour vous de mettre en vidéo cette compo ?
Parce qu'il fallait un single, fallait un premier single.
Oui, ça peut être une réponse très pragmatique. Hein.
fallait un premier single, c'est vrai que c'est peut-être le morceau le plus swing et dynamique de l'album. Donc ça, voilà, c'était aussi une compo, fallait que ce soit une composition.
Pour marquer le coup, quoi. Ça y est, ouais. Marshmallow passe aux compositions.
Tout ça.
Ouais, ouais.
Et alors, dans l'idée, combien de titres est-ce que vous voudriez voir sur cet album ? Est-ce que d'ailleurs la tracklist est déjà prête ?
Oui. Ouais, y a 10 titres.
D'accord. Mmh. Comme le précédent, je crois, non ? Il y avait 10 titres 12. Aussi. Il y en avait 12 sur le précédent ?
Je crois, oui.
Un album, en tout cas, ça coûte cher à produire. Est-ce qu'il y a un moyen de vous aider financièrement ?
Oui, tout à fait. On a... effectivement, il y a un financement participatif, comme on dit aujourd'hui, qui est en ligne depuis assez peu de temps, qui permet à tout à chacun de précommander, par exemple, le disque dans des formes différentes, parce qu'on va sortir un CD, mais aussi un vinyle. D'avoir accès à toute une liste
de contreparties
oui. Ouais, supplémentaires. Voilà, donc ça permet... Donc il y a le
CD, vinyle, et puis il peut y avoir une vidéo en plus. Alors c'est des CD et vinyle dédicacés, voilà, personnalisés. Et puis il y a un concert aussi.
Ouais,
c'est le jackpot.
C'est la golden
c'est le concert chez soi de Marshmallow.
Mais sur le premier album, on avait fait un fonds participatif comme ça, on avait eu deux concerts.
Ah ouais. Excellent, ah oui, donc ça marche bien. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des prochaines dates où on pourra vous voir jouer en live ?
Oui, Alors, la prochaine date, elle est privée, malheureusement.
Dans la région ?
Dans la région, oui, c'est mieux. Pour les gens qui nous écoutent.
La date à Tuneau ?
Ouais.
Non, je crois pas.
C'est public ?
Oui.
Ah ouais ?
Oui, oui.
Ok, on joue samedi.
Eh bah, très bien.
À Tuneau, en
Alors, samedi, ouais. Du coup, samedi, on sera le 16 décembre. Voilà, c'est important de le préciser.
Alors, en fait, c'est un concert caritatif. Hein. Ouais. C'est pour les enfants de Madagascar.
D'accord, ok.
Et juste pour le En fait, moi et Astrid, on est malgache, de Madagascar.
Voilà. Alors, vous préparez d'origine. Aussi une tournée, je crois, notamment avec deux résidences. Vous voulez nous en parler un peu?
Oui, tout à fait. Ben, ça va nous permettre de travailler le prochain spectacle. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'employer ce terme-là. Nous, on est plus dans une approche concert, mais finalement, on va s'entourer.
Vous utilisez le terme spectacle.
Ben oui, parce que sur les deux résidences, là, on a un regard extérieur qui va nous permettre d'avancer aussi sur le côté scénique et nous, la manière dont on intervient. Et on va travailler aussi avec deux scénographes qui sont deux scénographes qui travaillent avec l'Opéra de Bordeaux. Et donc là, ils viennent à Évron la deuxième semaine de janvier pour travailler avec nous sur la scénographie, tous les éléments de décor. Et puis voilà. Et ensuite, on aura une autre résidence à Barbezieux, c'est en Charente. Dans un centre culturel, une salle de spectacle, où là on va plutôt travailler la lumière. C'est vraiment la dernière partie de la conception du spectacle là, ouais.
Et ce spectacle, du coup, ce sera pour mettre en avant le prochain album, c'est ça?
Ouais, tout à fait, c'est pour la tournée qu'on va défendre pour l'album, ouais.
Et enfin d'ailleurs, est-ce qu'il y a un titre à ce prochain album au fait?
Bah oui, il y a un titre, on peut le dévoiler.
Ouais, oui.
De toute façon. The Silence.
Ah, ok, voilà. Intéressant ça. Et pourquoi The Silence, vous pouvez nous expliquer ou vous préférez garder le mystère?
On va garder le mystère.
Ouais,
ça marche, ok. Et ben merci beaucoup Marshmallow d'être venu dans l'amphi pour nous parler de votre groupe et de votre projet d'album The Silence, prévu pour 2024. Je rappelle qu'en attendant, vous pouvez écouter leur single Fool's Train, j'arrive pas à le dire, Fool's Train, ainsi que leur album de reprise Journey in Time. Vous pouvez également participer au financement du prochain album sur www.helloasso.com. Le lien est également disponible sur leur Facebook et je le mettrai aussi en description du podcast dès ce jeudi 14 décembre. On quitte donc Marshmallow sur un dernier titre. On écoute Summertime.
Stand there. goodbye.
Retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on va d'abord écouter Merlin. Salut Merlin, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi et pour un plat que j'affectionne énormément. C'est même sa journée internationale. Et oui, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la raclette. Ah, la raclette. Ou Bratschaus en Suisse. Ou Bratkäse en allemand classique. C'est un plat suisse qui vient du canton du Valais, une partie francophone de la Suisse qui se situe au sud-ouest de la Suisse. Ce plat emblématique daterait du Moyen-Âge et est une variante des fondues savoyardes qui ne sont en fait pas savoyardes mais suisses. On ferait de la raclette depuis le XIIe siècle, mais il fallut attendre le XXe siècle pour que cet illustre plat descendent les vallées suisses pour venir conquérir le cœur et le palais des habitants d'autres pays. Et il deviendra par la même occasion le plat national suisse. Donc, la raclette consiste à faire fondre du fromage du nom de raclette, évidemment, sur une sorte de broche, puis de racler le fromage fondu et de verser sur les pommes de terre sur les pommes de terre et la charcuterie les accompagnant. Dans la recette traditionnelle, il vous est conseillé de boire une boisson chaude ou du vin blanc d'un vignoble suisse. Mais bon, traversons un peu les époques pour nous rendre jusqu'à aujourd'hui et la raclette moderne. Avec plus de 13 600 tonnes de fromage à raclette produit chaque année en Suisse, c'est depuis les années 50 que l'on commence à la manger dans des appareils électriques, ou raclonettes, chez les habitants du Valais, dont la raclette est un emblème. La raclette fait quand même partie des traditions vivantes suisses, car la raclette est synonyme de fête et d'échange entre les gens en Suisse. Donc pour faire de la raclette, il vous faudra un appareil raclette, du fromage de qualité, c'est mieux. D'ailleurs, la raclette peut se faire avec d'autres fromages comme le morbier ou des fromages aromatisés. Il vous faut également de belles pommes de terre et de la charcuterie composée de jambon, de copa, d'un peu tout ce que vous voulez finalement. Ce que j'adore, c'est rajouter de la moutarde dans la raclette. Vous en mettez un peu sur votre fromage avant de le mettre à fondre et vous verrez, c'est succulent. Bref, maintenant on va s'intéresser à l'histoire du fromage à raclette. Donc le raclette est un fromage de lait cru de vache dont on retrouve les premières traces en 1574. C'est un fromage appartenant, aux pâtes pressées non cuites, comme par exemple le morbier ou le reblochon. Traditionnellement suisse, le raclette est désormais fabriqué un peu partout dans le monde, de la France au Québec, en passant par l'Australie, avec plusieurs variantes comme par exemple le Heidi Farm Raclette pour l'Australie ou le Raclette des Appalaches pour les Québécois. C'est en 2003 que le fromage obtint son label AOP, donc appellation d'origine protégée, qui fixa un cahier des charges assez strict pour sa fabrication. Et dans vos raclettes, le plat, pas le fromage, n'hésitez pas à varier les plaisirs en mettant par exemple du potimarron, des betteraves ou encore des légumes de saison à la place des pommes de terre. Bref, j'espère qu'un petit retour sur ce plat à la fois crémeux, chaud, réconfortant, fromager et un peu gras, mais ma foi délicieux, vous aura donné faim. Joyeuse fin de journée internationale de la raclette et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Merlin, je ne savais pas qu'il existait une journée internationale de la raclette, c'est formidable, il existe vraiment des journées internationales pour tout.
Un peu oui.
Eh bien écoute, ça va être à ton tour Maël, de quoi tu nous parles là aujourd'hui?
Aujourd'hui je vais vous parler de Zen, un joueur Rocket League.
Eh bien c'est parti, on t'écoute.
Merci, donc alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Alexis Bernier, alias Zen, un joueur Rocket League âgé de seulement 16 ans. Alors tout d'abord, c'est quoi Rocket League? Rocket League, c'est un jeu vidéo sorti en 2017. Donc pour faire court, ce jeu c'est du foot, mais avec des voitures et une balle géante, tout ça dans une arène fermée. Rocket League, ça peut se jouer en 1 contre 1, 2v2 ou encore 3v3, qui est le mode le plus répandu dans l'e-sport Rocket League. Donc, comme je vous le disais à l'instant, Zen c'est un très jeune joueur Rocket League français. Zen, il joue actuellement pour une des meilleures équipes du monde, Vitality. Donc pour ceux qui suivent juste un tout petit peu l'e-sport, le nom de cette équipe vous dit forcément quelque chose, puisqu'elle est ou a été présente sur de nombreux jeux, tels que Fortnite, League of Legends, FIFA, Call of Duty et bien d'autres. Donc le problème de Rocket League, si c'en est un, c'est qu'il faut avoir 15 ans. Or, Zen les a atteints il y a seulement moins de 2 ans. C'est-à-dire qu'il a seulement pu commencer vraiment à exploiter son talent sur la scène professionnelle il y a très peu de temps, et manque donc d'expérience en compétition. Au début de 2020, âgé de seulement 12 ans, il avait déjà atteint le plus haut rang en Ranked. Donc le Ranked, ça signifie classé en français. Le Ranked, ça représente votre niveau de jeu. Sur le jeu, plus on gagne de matchs, plus on arrive à un niveau élevé. Sur Rocket League, le premier rang, c'est Bronze 1, et l'ultime rang, c'est Légende Supersonique. En 2019, ce rang n'existait pas, mais il était équivalent à Grand Champion. C'est vraiment dur d'arriver au stade de légende supersonique car il y a 21 paliers avant d'arriver à ce rang. Pour preuve, 0,1% des joueurs ont réussi à l'atteindre. En juillet 2020, durant les phases de qualification des RLCS, donc les RLCS c'est la ligue e-sport de Rocket League, donc comme je vous le disais, durant cette ligue de qualification très importante, Zen remplace le joueur Azu d'une équipe composée de Gaspo et Seiko, deux autres joueurs français. Le tournoi se déroule en ligne et Zen joue officieusement sur le compte du joueur absent. Le créateur du jeu découvre la supercherie. Zen, qui n'était pas le remplaçant officiel et qui n'a pas l'âge requis pour participer, se fera donc bannir d'une saison complète. A titre indicatif, une saison dure 3 mois. En février 2022, Zen fête donc ses 15 ans. Il devait normalement enfin pouvoir jouer, sauf que le créateur du jeu a décidé que le bannissement de Zen se prolongerait d'encore un an seulement pour les RLCS. Il pourra donc jouer les RLCS à l'âge de 16 ans. Durant ce temps, Zen s'est mis très sérieusement à faire du 1v1, où il affronte les meilleurs joueurs du monde entier sur des tournois non officiels sur la chaîne Twitch et YouTube de Johnny Boy. À chaque match de 1 contre 1 qu'il joue, ses buts sont de plus en plus fous et de plus en plus spectaculaires. En seulement quelques semaines, il fait tomber les plus grands joueurs 1v1 de la planète. Son niveau était tellement fou qu'il était considéré comme le meilleur joueur de la planète avant même d'avoir disputé un seul match en RLCS. Donc le 2 octobre 2022, alors que Zen était encore banni de toute compétition professionnelle et qu'il n'a fait aucun match sous le statut de professionnel, Vitality recrute Zen dans son équipe Rocket League. Pour que vous compreniez un petit peu mieux, une saison Rocket League, enfin un an sur Rocket League, se découpe en trois parties, que l'on appelle des splits, avec trois grands majors internationaux à chaque fin de split. Pour se qualifier à ces majors, il faut passer par des qualifications régionales. Vitality joue en Europe, donc l'Europe c'est vraiment la meilleure région du monde. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les six derniers majors, l'Europe en a gagné 5, ce qui montre bien la domination de l'Europe sur cette scène mondiale. Le jeune joueur français commence ses premiers matchs professionnels en mai 2023, durant le troisième et dernier split de la saison, car le deuxième était tombé juste avant ses 16 ans. Durant cette qualification du troisième major, Vitality détruit tout le monde, même les meilleures équipes européennes. L'équipe de Zen ne perd pas un seul duel, ils sont juste monumentales. Ils ont gagné les trois premiers régionaux avec une facilité déconcertante. À ce moment-là, Zen a 100% de victoire en tournoi, ce qui est stupéfiant. L'équipe de Vitality, composée de Rodozin, Alpha 54 et Zen, arrive donc en fin de major du split 3 en tant qu'ultime favori. Mais le début de ce tournoi se passe mal. Les joueurs de Vitality ont du mal, mais parviennent tout de même à arriver jusqu'au top 8 où ils perdent face à BDS. Mais ce n'est pas fini pour eux, ils arrivent donc en lower bracket. Comme je vous l'ai expliqué il y a deux semaines, le lower bracket c'est une deuxième chance. Si on gagne le lower bracket après de multiples combats, on arrive en finale. Sur le premier match du lower bracket, Vitality affronte une équipe du Moyen-Orient. Dans cette équipe, on y retrouve le seul et unique joueur à avoir battu Zen en 1 contre 1. Le dernier match de cette confrontation est un match qui restera à jamais gravé dans l'histoire de Rocket League. Car dans un match Rocket League, le temps de jeu normal est de 5 minutes. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle l'overtime. Dans l'overtime, c'est la première équipe qui marque un but qui remporte la rencontre. Or là, ce match, il a duré 17 minutes, dont 12 minutes d'overtime avant que Vitality inscrive le seul et unique but de la partie. Pour la finale du lower bracket, nous avons les trois monstres français de la Carmine Corp contre l'équipe de Vitality. Ces deux équipes se battent pour une place en finale face à BDS. Après trois matchs gagnés par les deux équipes, on arrive en manche 7, la manche où tout va se jouer. Le premier but de la rencontre est inscrit par la Carmine Corp, puis un deuxième quelques secondes plus tard. À ce moment précis, il reste 1 minute 45 à jouer. Si Vitality veut sa place en finale, il faut marquer au moins 2 buts en 1 minute 45, ce qui est vraiment très dur, surtout qu'en face, c'est pas n'importe qui, c'est la Carmine Corp. Seulement 20 secondes plus tard, Alpha 54 répond et marque un but, puis ensuite un autre but de Vitality 30 secondes après, grâce à une passe miraculeuse de Zen. Alpha 54 libère finalement son équipe juste après être rentré dans l'overtime. Vitality gagna assez facilement leur grande finale acclamée par la foule américaine. C'est comme si se réalisait la prophétie du gamin devenu le meilleur joueur du monde avant même son arrivée sur la scène professionnelle. Malheureusement, je ne peux pas tout vous raconter de Zen, car sinon ma chronique serait interminable. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci Maël, ça a l'air d'être un joueur très impressionnant en tout cas.
Oui, c'est assez fou de le voir jouer.
On va se quitter en musique avec une dernière petite pause musicale où vous pouvez gagner des places pour Variability à Eve. C'est un spectacle de danse le 20 décembre en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Sohan, ses lumières.
Même si j'aime à soulager une ivrognerie par la luxure, à corps ou à tort partagé, serais-je encore ce que tu crois? Au moment d'un dernier été, à l'aube d'un dernier éclat, seras-tu là pour me veiller? Est-ce que ta beauté est à vendre? Est-ce que je peux me l'acheter pour une chanson le long des lignes d'un cahier qui se demande? Si nous ne sommes que poussière, les tiennes ainsi disposées sont-elles rimes ou cimetières? Je ne chante qu'à ces îles qu'on ne connaît pas, sous les néons fragiles de nos amours en bois. Ce ne sont pas des manières aux yeux de l'hacienda, même si ça m'indiffère. J'ai froid. Même si j'aime tes baisers, que je tremble de tout mon corps, et que mon âme a beau chercher, qu'elle n'y voit l'ombre d'un remords. Et que la mort saura me dire si d'autres plus belles que toi auraient su me faire frémir? Est-ce qu'il n'y a plus rien à prendre lorsqu'on se dit c'est fini? Est-il possible qu'on attende d'amour pour rien toute sa vie? Si Gabriel était à table, quand passera ma moitié? S'en ira-t-elle sans aimer? Je ne chante qu'à ces villes encore illuminées, sous les néons fragiles de nos amours tentés. Ce ne sont pas des manières aux yeux du délaissé. Les autres s'indiffèrent, ils préfèrent s'aimer. Et même si je mords encore à ces lumières, et même si je m'enterre, commence-t-on le port? Et même si je t'aime à m'en vider les sangs, commence-t-on la reine? Comment tu es l'amant? La mémoire à vendre à mes amours d'un soir et mes passions qu'attendent des yeux pour te voir. Et même si je mens quand j'entends tes prières, et même si je tends mes mains dans l'univers, ton ombre prétend que je la ruine, je maudirai le nombre des amants d'Amandine.
Et merci d'avoir écouté l'Amphi. On est en train de finir d'écouter Ludlow de Aaron. La prochaine aura lieu vendredi 15 décembre. Et oui, pas d'émission jeudi 14, ce sera une rediff. Mais on se retrouve donc vendredi 15 où je recevrai le Blues Club dans le prolongement donc de notre rencontre avec Marshmallow. À bientôt dans l'Amphi. To a place where fever has
nailed. C'était l'Amphi, l'émission étudiante.
Étudiante.
Radio Alpa, l'alternative.